Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Pupponi, député maire socialiste de Sarcelles dans le Val-d'Oise.
Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio, François Pupponi. Vous êtes en effet élu de Sarcelles dans le Val-d'Oise, un département parfois secoué par des violences urbaines, comme ça a été le cas encore l'été dernier après la mort d'Adama Traoré. Ce qui s'est passé à Aulnay samedi dernier, cette violence dans l'interpellation, d'abord ça vous surprend ?
Non, le dérapage est toujours possible. Il y a des interpellations, des interventions de la police quotidiennement dans ces quartiers et on peut basculer à tout moment dans un événement terrible comme celui-là.
Vous êtes d'accord avec votre confrère député socialiste Daniel Goldberg qui disait il y a quelques jours, si ça s'était produit avenue de l'Opéra à Paris, ça ne se serait évidemment pas passé comme ça ?
Sûrement. C'est vrai que la tension est palpable depuis de nombreuses années et la police travaille dans des conditions extrêmement difficiles. La tension avec les jeunes est de plus en plus forte. En particulier avec les jeunes qui sont liés au trafic de drogue. Et donc, on va au contact tous les jours, au clash tous les jours. Et après, il peut y avoir des événements terribles, parce que l'intervention n'est pas acceptable telle qu'elle a été faite. Mais quotidiennement, on peut se retrouver dans une situation comme celle-là.
Parce que ce que voulait dire Daniel Goldberg, en réalité, c'est que la police se permet, évidemment, des comportements qu'elle ne s'autorise pas ailleurs, dans d'autres contextes moins tendus. C'est plutôt la police qu'il pointait du doigt.
Oui, il pointe la police, en disant que les méthodes d'intervention de la police dans ces quartiers ne sont pas les mêmes que dans d'autres quartiers.
Ouais.
Après, la police a aussi un accueil dans ces quartiers qui n'est pas le même que dans d'autres quartiers. Quand on se fait insulter tous les jours, moi j'assiste à des scènes où les policiers se font insulter tous les jours, il y a des tags en ville avec le nom d'un policier en le traitant de tous les noms, sa femme, sa mère, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, ils sont dans une ambiance, dans une présence d'une tension qui est différente d'ailleurs, c'est sûr.
Et qui, vous qui êtes un élu de terrain, comme le disait Yves Calvi, depuis extrêmement longtemps à Sarcelles, ça progresse dans le mauvais sens ?
Ça progresse dans le mauvais sens pour deux raisons. La première, c'est que le trafic de drogue se développe et donc ça crée d'autres relations entre les délinquants et la police. Et deuxièmement, l'arrêt de la police de proximité a été un premier échec en fin de compte, puisqu'on est passé sur autre chose. Et ce qui se passe dans ces quartiers, on a recruté beaucoup de policiers, très jeunes.
Il est jeune, par exemple, celui sur lequel pèsent les charges les plus lourdes. Il a 25-27 ans, je crois.
Ils sont jeunes, ils arrivent, peu ou pas formés, enfin rapidement formés. Et surtout, dans les commissariats de ces quartiers, il manque d'encadrement. Il y a le commissaire, il n'y a pas de cadre intermédiaire. Parce que souvent, ils demandent leur mutation, ils partent ailleurs, ils ne sont pas remplacés. Et donc, on met des jeunes policiers, un peu inexpérimentés, seuls, dans des quartiers qui sont dans des quartiers où ils sont dans une situation d'hostilité par rapport à la population.
C'est comme le mode d'affectation à l'éducation nationale. On met les plus jeunes dans les établissements, et là en l'occurrence les quartiers les plus difficiles, au lieu de mettre les plus expérimentés.
Il y a ça, et surtout on met les plus jeunes avec peu d'encadrement.
Ouais.
Si à l'égard ils étaient jeunes et encadrés, ça irait mieux.
Et pourquoi pas d'encadrement ? Pourquoi cette strate intermédiaire qui devrait
parce que les encadrants, qui sont des anciens policiers de ces quartiers, à un moment demandent leur mutation pour être dans des endroits plus tranquilles, et ils ne sont pas remplacés faute de recrutement. Mmh. Et donc, on a beaucoup recruté de jeunes policiers gardiens de la paix, mais les cadres, eux, n'ont pas été recrutés. Parce que les cadres, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils montent les échelons année après année. Et comme on n'a pas ces cadres, dans ces commissariats-là, il y a souvent des jeunes qui sont livrés eux-mêmes.
Et alors, la solution, c'est ?
La solution, c'est de repartir à la base de ce qui a été fait, recruter, former, mettre en place des encadrements, inciter les policiers expérimentés à venir dans ces quartiers. Enfin, c'est une vieille litanie qu'on connaît depuis des années et que notre pays n'arrive pas à mettre en œuvre, puisque le problème, c'est qu'on change, selon le gouvernement en place, de doctrine d'emploi de la police dans ces quartiers tous les 5 ans.
Il y a un syndicaliste, unité CGT Police, on l'a encore entendu à 7h30 tout à l'heure, qui a relativisé hier l'insulte Bamboula, avant de se défendre de tout racisme. Mais c'est une maladresse où il y a un racisme latent dans la police, comme le disait à votre place hier d'ailleurs
C'est bien sûr plus qu'une maladresse, mais c'est aussi révélateur du fait que on a un peu perdu, on est complètement désinhibé. C'est-à-dire qu'on entend un policier syndicaliste dire que Bamboula c'est pas grave. Je sais même pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il disait, mais il l'a dit parce qu'il le pensait sincèrement. Donc on est dans une situation où là on marche complètement sur la tête. C'est à la fois inimaginable, insupportable, mais qu'il puisse le verbaliser comme ça, c'est révélateur d'un état d'esprit. Il y a sûrement aussi la police n'est pas une société à part dans notre pays, et il y a sûrement dans la police des policiers racistes, comme il y a en France des racistes, mais c'est-à-dire globalement ce sont quand même des gens qui ont une éthique, une déontologie, c'est une minorité. Mais ce qu'a dit ce syndicaliste est révélateur d'un état d'esprit aussi de certains.
Un quinquennat de gauche n'a rien changé.
Si, mais oui, parce que quand vous arrivez avec 12 000 policiers de moins et qu'il faut les recruter, que vous mettez 3 ans à les former, le temps qu'ils arrivent dans les quartiers, Ça, c'est pas quelque chose qu'on règle en claquant du doigt. On a voulu changer les choses, on a commencé à les changer, mais quand parallèlement à ça, il y a l'état d'urgence, la drogue qui se développe dans ces quartiers, les réseaux de radicalisation qui se développent, que les policiers sont sur tous les fronts, entre la volonté de faire quelque chose, les moyens financiers et les embauches, et la réalité sur le terrain, il y a un écart que les gens ne voient pas.
La radicalisation, elle opère comment, justement, dans ces quartiers, par rapport à ce climat de tension entre les jeunes et la police ?
Les réseaux de radicalisation ont bien compris qu'il y avait un malaise dans ces quartiers, que les habitants et les jeunes de ces quartiers étaient en situation de conflit avec l'autorité républicaine et la police en particulier. Ils exploitent ce malaise, rentrent en contact. Bah, ils voient bien avec le malaise et donc ils contactent les jeunes, ils les ramènent vers eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont élaboré un contre-discours républicain qui dit, et ils disent aux jeunes, voyez comment on vous traite, voyez comment on ne vous respecte pas, voyez comment ce pays ne vous aime pas, venez chez nous, vous serez respectés.
Vous avez créé à Sarcelles, c'est le premier, je crois, un centre de déradicalisation. Vous avez investi près de 200 000 euros, la mairie. Et j'ai observé que vous faites des espèces de stages pour prévenir la radicalisation. 54% de ceux qui ont participé à ces stages sont justement des membres des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ?
Déjà, comprendre. Quand on dit, qu'est-ce que c'est un jeune radicalisé ? C'est quoi le salafisme ? C'est quoi des réseaux de radicalisation ? On en parle, mais la plupart des policiers concernés ne sont pas formés à ce que c'est. Donc, ou même des agents municipaux, des éducateurs, même les élus, même moi-même. Donc d'abord, on a commencé par se former. De quoi parle-t-on ? Quels sont les mots que l'on emploie ? Et comme personne ne le sait vraiment, il faut former, parce qu'il n'y a pas de structure de formation, y compris pour les forces de l'ordre, sur ce que sont ces réseaux de radicalisation. Donc nous, on est reparti à la base, on a mis en place ce centre, qui est aussi un centre de ressources pour expliquer aux acteurs de terrain, y compris policiers, ce qui se passe.
Mais vous avez dénoncé il y a quelques mois la collusion entre associations et certains élus de banlieue qui achètent la paix sociale par le communautarisme, voilà, qui subventionne des associations qui sont très limites, borderline comme on dit, par rapport à l'islamisme par exemple. Et vous l'avez dénoncé à l'époque, il y a quelques mois.
Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a avoir des relations normales avec les communautés. Et puis après, il y a des associations, qui sont des associations proches de réseaux radicalisés qui arrivent dans ces quartiers. Et il y a deux solutions. Soit on s'affronte à ces associations, mais d'abord il faut les connaître, il faut savoir qui ils sont, il faut avoir des renseignements, enfin il faut travailler, ou alors on passe un deal. Et effectivement, je pense que dans certains territoires, mais je ne jette pas la pierre à mes collègues, c'est compliqué. C'est difficile de résister à la pression. Et donc, il faut savoir ce que l'on fait. Moi, aujourd'hui, je m'affronte à un certain nombre de ces associations sur le terrain. Voilà, mais on fait ce qu'on peut comme on peut. Les élus sont souvent un peu seuls sur ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'on essaie de faire ce qu'on peut en fonction des informations que l'on a et des réactions qu'on doit avoir.
Des élus de droite et de gauche.
De droite et de gauche.
Mais ça, là-dessus.
C'est l'élu de banlieue qui est confronté à ces problèmes. Qu'il soit de droite ou de gauche, il fait ce qu'il peut compte tenu de la situation et de sa propre manière de voir les choses.
Mais vous diriez que c'est de plus en plus difficile de résister au communautarisme, à l'emprise que prennent ces associations.
La pression est forte, elle est quotidienne. Elle est
vous avez par exemple, vous, des soupçons d'écoles clandestines
C'est pas des soupçons, c'est la certitude qu'il y a dans ma ville, deux écoles qui viennent de s'ouvrir, une qui a été déclarée, l'autre qui ne l'est pas. C'est une certitude, c'est pas des soupçons. On va rentrer des gens, sortir des gens, et donc on travaille avec les services de renseignement. Il y a des associations de quartier qui sont attaquées, entre guillemets, pour la prise de pouvoir. C'est pas des soupçons, c'est notre lot quotidien et c'est ma réalité quotidienne. C'est ce qui se passe dans ces quartiers. Voilà. Avec des associations qui arrivent d'ailleurs, on sait pas d'où.
Vous êtes inquiet sur le développement de ce phénomène. Il n'y a pas de contre-feu, il n'y a pas de contre-pouvoir.
Aujourd'hui, on met en place des contre-feux localement, en fonction de situations particulières. Il n'y a pas, selon moi, d'organisation au niveau des institutions républicaines coordonnée pour faire face à ce processus, qui est relativement nouveau, qui émerge, mais d'une manière importante. Et donc, on est en train uniquement de se mettre en place un système pour essayer de faire face à cela. Donc oui, moi, je suis inquiet. Et je répète, c'est le lot quotidien des élus de banlieue aujourd'hui de faire face à ces phénomènes-là.
Juste, pour exemple, très brièvement, par exemple, ces écoles clandestines sont des enfants qui échappent à l'éducation scolaire.
Oui.
Pas à l'obligation scolaire. Elles sont autorisées. Si elles sont clandestines, elles devraient être interdites.
Alors, là, vous touchez du doigt un problème juridique dans notre pays. Aujourd'hui, une école, elle doit être déclarée. Vous êtes déclaré, soit vous n'êtes pas sous contrat, soit vous êtes sous contrat. Mais il y a des écoles qui ne sont pas déclarées, du tout. Ils ouvrent les... Et quand vous appelez l'éducation nationale pour dire « mais moi j'ai une école clandestine dans mon quartier », l'éducation nationale vous répond « moi je ne m'occupe que des écoles légales et déclarées ». Les clandestines, oui, non, mais l'éducation nationale.
On est un peu en absurdie, là.
Ah, mais on marche sur la tête complètement. Donc, on a essayé dans la loi égalité citoyenneté, justement, de lutter contre ça, de changer la loi. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, les écoles clandestines relèvent non pas de l'éducation nationale, mais éventuellement de la... L'éducation nationale ne s'occupe que des écoles déclarées. Celles qui ne sont pas déclarées, pour elles, ce ne sont pas des écoles.
Voilà. Donc, elle ne regarde pas ce qui se passe en dehors de son champ légal.
Tout à fait.
Et en dehors, donc, se prospère et effectivement
après,
des structures qui peuvent faire de la, du prosélytisme dont on imagine qu'il peut former
des enfants. Il y a des gamins de 5-6 ans qui sont recrutés par ces écoles. Les parents confient les enfants à ces écoles-là, et imaginez ce que ça peut donner dans 3, 4, 5, 10 ans.
Non, et l'État ?
Alors l'État essaye de réagir, de voir comment on fait pour lutter contre l'école clandestine. Alors il faut engager des procédures, c'est les juges de la... Voilà, donc il y a des procédures, mais je pense que tout ça est trop lourd par rapport au risque qui est l'autre, et qu'il faut, je pense, modifier les procédures pour être plus réactif.
Un mot de l'affaire Fillon, François Pupponi, vous assumez de travailler avec votre épouse à l'Assemblée nationale ?
Ben oui.
Vous avez épousé votre collaboratrice ou vous avez embauché votre femme ?
Non, moi j'ai épousé ma collaboratrice, comme Claude Barthelone, voilà.
D'accord. Interdire l'emploi désormais des membres de la famille.
Bah, si la loi le dit, je l'appliquerai. Après, j'ai du mal à comprendre la logique de tout ça. On doit pouvoir le droit, dès lors que c'est transparent, que c'est un travail effectif, travailler avec des proches.
Dans l'Express, le philosophe Marcel Gauchet estime que la politique ne crève pas de la corruption. C'est extrêmement rarissime. Mais en revanche, elle crève du clientélisme. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Attribution de logements sociaux, subventions aux associations, nominations au sommet, etc. Les médias le dénoncent, mais la population le supporte de moins en moins, vous êtes d'accord ?
Oui, non. Enfin, faut pas d'abord généraliser, et puis deuxièmement, à la fois les gens le critiquent, mais ils viennent tous vous demander des logements, les associations viennent vous demander des subventions. Voilà. Donc, quand ils en bénéficient, c'est très bien. Et quand ils en bénéficient pas, ils appellent ça du clientélisme.
Donc, c'est toute la population qu'il faut.
Non, je sais pas. C'est peut-être un système à voir. Et après, peut-être prendre du recul par rapport à tout ça. Oui, les élus distribuent des subventions, accordent des logements, et il faut le faire dans la transparence, avec des procédures qui ne seraient pas susceptibles d'être critiquées.
La transparence, c'est la bonne réponse. Merci François Pupponi de nous avoir parlé de votre expérience d'élu de terrain aujourd'hui sur RTL.
Les trafics de drogue se développent et la police de proximité nous manque, nous a notamment dit François Pupponi. Merci à tous les deux. Entretien à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr.